Carl Terbi, on va faire un point aujourd'hui sur la situation de KNS, hein, que la SMSP suit évidemment de très très près. Vous avez toujours parlé de repreneurs éventuels, il y a des discussions en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des groupes ou des traders intéressés et qui ont déposé des offres, qui sont en cours d'étude?
Alors d'abord, avant de répondre à cette question, un message de soutien et une pensée très forte pour tous les salariés du groupe SMSP et principalement les salariés de Cognambo Nickel, hein, qui sont impactés par ce plan. Oui, aujourd'hui, il y a toujours des groupes intéressés. On a un process de cession des actions qui est prévu en deux phases, hein. Une première phase qui est arrivée à échéance mi-juillet, qui correspondait à une offre de remise non engageante par les groupes intéressés. Et donc là, on a trois groupes qui ont remis des offres. Donc on a ces groupes-là qui rentrent dans une phase 2, qui est une étude beaucoup plus approfondie de toute la documentation juridique, comptable, géologique de KNS, et aussi bah, certainement des visites de centres d'experts de ces groupes-là.
Est-ce que le 13 mai a changé des choses? Est-ce qu'il y a, en raison de la situation actuelle en Calédonie, des repreneurs potentiels qui se sont désistés?
Oui, il faut être clair, hein. On avait avant le 13 mai 8 groupes qui avaient souhaité participer à cette première phase. Et suite aux événements du 13 mai, on a 5 groupes qui se sont désistés dans les 10 jours suivant ces événements. Ce qui nous ramène aux 3 groupes qui sont restés jusqu'au bout de cette phase 1 et qui ont prolongé en phase 2.
Est-ce que c'est un affichage ou est-ce que voilà, est-ce que vous considérez que c'est des offres aujourd'hui qui sont sérieuses, voire qui ont des chances d'aboutir?
Non, non, comme je l'ai dit à nos représentants syndicaux et des salariés que je rencontre régulièrement sur Cognambo, je ne suis pas un vendeur de rêve en fait. Aujourd'hui, il y a trois offres qui ont été émises. Très honnêtement, il y en a deux qui sont des groupes très sérieux, des groupes internationaux, cotés en bourse avec une très grosse capitalisation. Il y a une troisième offre qui est un peu plus faible, mais qui n'a pas été écartée pour autant. Donc non, non, on parle d'offres sérieuses.
Alors, on sait que les groupes intéressés doivent racheter une dette, ils doivent aussi éventuellement investir. On va reparler de l'outil industriel en tant que tel. Ils resteront aussi à 49% évidemment dans le capital. Est-ce que c'est une offre qui est attractive pour des groupes de cette nature?
Oui, puisqu'il y a trois groupes, hein, comme je vous ai dit, qui ont des fortes capitalisations boursières qui sont intéressés par ce projet. Bon, le rachat de la dette, ça c'est effectivement ce que Glencore aurait souhaité, mais je pense que le marché répond et dans les offres reçues, il n'y a pas vraiment de place pour cette dette, hein, ce qui est assez une évidence, un petit peu comme Vale l'avait fait en partant de Prony Resources, hein, il a effacé sa dette avant de partir. On sait que ce genre de projet qui ne fonctionne pas à une capacité nominale bah, sont souvent vendus à des prix négatifs et avec une dette à zéro.
Et le fait de rester à 49% dans un projet comme celui-là?
Bah ça, c'est une des conditions initiales du partenariat. Ils savent que la SMSP est présente à 51%, apporteur de la ressource. C'est un des critères du document qui leur a été envoyé. Et aucun des groupes qui n'a répondu aux offres pour l'instant ne remet ça en question.
Alors, on sait que le process hein, choisi au moment du démarrage de l'usine du Nord, hein, le process NST n'a pas fonctionné comme on aurait pu l'imaginer dès le départ. Est-ce qu'il aurait fallu changer les choses plus tôt? Est-ce que finalement les décisions de cette nature n'ont pas été prises au moment où elles auraient dû être prises?
Oui, avec le recul, c'est évident. Hein. On a un process NST qui a été choisi initialement par un vrai métallurgiste qui était Falcon Bridge à l'origine du procédé. C'était un procédé très innovant, très propre. Malheureusement, bah, avec les changements de marché, on a eu successivement Xstrata et Glencore depuis 2013, qui n'a jamais réussi à faire fonctionner ce procédé. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que vous vous rappelez qu'il y avait eu des défauts de construction sur les fours hein, en 2015-2016 qui ont été très mouvementés aussi pour Cognambo Nickel. À l'époque, hein, M. Dang avait effectivement posé sur la table l'idée auprès de Glencore d'éventuellement changer ce process qui ne fonctionnait pas et qui avait des défauts de construction pour aller vers des procédés qu'on maîtrisait, notamment celui bah, qu'on a avec notre filiale SNNC en Corée du Sud. Glencore, qui était le financeur à cette époque-là, avait refusé, avait souhaité continuer, ayant une certaine certitude de faire fonctionner ce process. Voilà. Malheureusement, 7 ans après, c'est pas le cas et ils ont décidé de partir.
Alors, on sait que vous avez écrit au président Emmanuel Macron parce que la prochaine étape, c'est la mise en veille à froid hein, de l'outil industriel. Vous avez écrit au président Macron pour lui demander un délai supplémentaire. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous lui avez demandé précisément? Est-ce qu'il vous a répondu? Et que peut-il faire? De quelle façon pourrait-il intervenir dans ce dossier?
Alors le courrier a effectivement été remis par notre député Emmanuel Djibaou lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron la semaine dernière. On n'a pas encore de réponse aujourd'hui, hein. On espère en avoir une. Alors pourquoi ce courrier? Bah, effectivement, on peut voir Les montants qui ont été accordés à la SLN et à Prony Resources pour les aider à continuer à fonctionner. Nous, on ne demande pas de l'argent pour fonctionner. On est entre une transition entre un ancien actionnaire qui veut partir et un nouveau qui va arriver. On a une période de 6 mois dans laquelle on voudrait protéger cette ressource humaine. Parce qu'aujourd'hui, au massif du Cognomo, on a parlé du procédé NST, hein, qui n'est pas là où on aurait aimé qu'il soit. Mais par contre, il nous reste 2 ressources. Une ressource minière, qui elle ne bougera jamais, et une ressource humaine. Cette ressource humaine, si on veut la conserver, il faut pouvoir avoir une aide de l'État français pour prolonger les salaires pendant cette période d'étude des groupes étrangers, afin que les groupes soient aussi assurés de trouver une ressource humaine qualifiée, puisque la ressource humaine de Cognambo, maintenant, ça fait pour certains 10 à 15 ans qu'ils travaillent sur le site et ont acquis des compétences qu'il faut qu'on arrive à conserver en province nord.
C'est un délai que vous estimez à combien de temps avant qu'un éventuel repreneur ne puisse finaliser une offre ?
Alors, le point commun des offres qui ont été remises par les groupes, hein, c'est une demande d'une période, ce qu'on appelle une due diligence, hein, une étude de 3 à 6 mois.
Revenons encore un peu sur l'histoire, parce qu'on sait qu'il y avait un pacte nickel qui aurait permis, non pas peut-être de sauver la filière, mais en tout cas de lui donner de l'air et des perspectives. Bon, ce pacte nickel n'a pas vu le jour. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des regrets de votre part ? Est-ce que vous pensez que ça aurait pu faciliter les choses, y compris vis-à-vis des repreneurs qui se sont présentés ?
Le pacte nickel est devenu un sujet extrêmement politique plus qu'industriel. La demande des industriels calédoniens, et là les 3 étaient unanimes sur le sujet, c'était une énergie moins chère, compétitive et des soutiens au verdissement de cette énergie. Donc ça c'est un point qui est crucial aujourd'hui même encore pour la métallurgie calédonienne. Après ce pacte nickel a englobé d'autres sujets, d'export notamment, qui je pense ont créé des tensions politiques qui ont fait qu'il a échoué. Mais il est sûr que l'énergie, pacte nickel ou pas pacte nickel, l'énergie compétitive et décarbonée, c'est un point crucial si on veut que la métallurgie en Calédonie puisse survivre.
Mais encore une fois, si ce pacte avait été mis en œuvre, vous pensez que ça aurait pu aider un éventuel repreneur? Ça aurait été une sorte de garantie supplémentaire?
J'ai envie de dire, si on a vu l'énergie garantie, oui. Le reste, pas forcément.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la mise en veille à froid semble pour l'instant la solution la plus plausible. Si demain il n'y a pas de repreneur, avec les délais que vous avez évoqués éventuellement, quelle va être la suite? Une fois que c'est acté, qu'il n'y aura pas de repreneur, comment les choses peuvent se dérouler?
Il y a plusieurs options, hein, qui vont nécessiter de très grosses discussions entre actionnaires SMSP et Glencore. Hein. Il y a une première option qui serait de se dire que le site est mis en veille en attendant quelques années que le marché de la batterie arrive à des niveaux auxquels on prévoit qu'il arrive, mais qui ont un peu de mal à démarrer, en se disant l'herbe sera plus verte dans 2-3 ans et on verra ce qui se passe. Où il y a une autre solution qui est de liquider la boîte, la société Cognambo Nickel, pour que les titres miniers remontent à la province nord et qu'il puisse être monté un autre projet avec un autre partenaire.
Aujourd'hui, les deux possibilités sont sur la table. Enfin, il n'y en a aucune qui est privilégiée par rapport à l'autre.
Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à discuter de ça avec Glencore, hein, puisqu'on a encore des repreneurs qui sont sur la table. Les deux groupes, les deux actionnaires concentrent leur énergie à répondre aux besoins des différents groupes pour les assurer. Et je pense que Glencore et la SMSP ont intérêt à ce qu'il y ait un repreneur à la fin de ce process.
Carl Terbune, tous les industriels aujourd'hui souffrent sur le territoire, les mineurs aussi. Est-ce que dans cette situation très particulière et qui représente peut-être une crise que n'a jamais connue la Nouvelle-Calédonie, les industriels auraient pu trouver des synergies ou en tout cas des entraides possibles pour faire en sorte de sauvegarder des emplois ou de mettre du minerai à disposition de l'un l'autre? Enfin, voilà, trouver des pistes qui permettent au moins d'assurer une production minimum à droite et à gauche.
Vu la situation du territoire depuis le 13 mai, ces synergies sont compliquées à trouver. Il y avait des synergies qui étaient prévues avant que Cognambo soit mise en veille. Hein. Cognambo avait déjà contacté la SLN pour lui proposer 450 000 tonnes de minerais sur une base annuelle, dans le cadre notamment des discussions du pacte nickel. La SLN était en train d'étudier cette proposition. Après, depuis le 13 mai, effectivement, les choses ont changé. Hein. On n'a plus aucun salarié en activité sur le Cognambo. Hein. Ils étaient maintenus en salaire, mais plus en activité pour leur protection. Des synergies étaient prévues avant cette date du 13 mai, étaient proposées. Malheureusement, les émeutes ont un peu tout bouleversé, on va dire.
Donc aujourd'hui, tout ça est à l'arrêt. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. On pourrait effectivement penser à réactiver une activité minière sur Cognambo pour alimenter la SLN. Mais premièrement, il faut savoir que le Cognambo n'est pas équipé pour exporter du minerai. Il n'y a pas de zones au port qui sont faites pour ça, donc ça nécessiterait un investissement. Et en plus, ça réactiverait potentiellement un risque sur le Cognambo Nickel, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, La plupart des mines du territoire sont bloquées et on préfère ne prendre aucun risque avec la société Cognambo Nickel, puisque la moindre émeute ou intrusion sur le site serait quelque chose qui pourrait effectivement refroidir encore un peu plus les potentiels acheteurs qui sont restés autour de la table.
Un dernier mot sur les filiales de la SMSP. Bon, il y a KNS, il y a aussi la NMC, il y a Cotransmine. Aujourd'hui, l'activité est à l'arrêt. Vous avez beaucoup recours au chômage partiel. Hein. Combien de temps vous pouvez tenir comme ça?
Écoutez, j'espère qu'on a passé le plus dur. On a une activité qui redémarre progressivement. On a le site de Waco, tout au nord de la Calédonie, qui a repris début juin. On a le site de Poya qui a repris depuis une semaine. Ça nous permet d'alimenter notre usine en Corée et d'éviter une rupture de stock. Bien sûr, ça impacte la majorité de nos salariés NMC et Cotransmine par du chômage partiel, hein, d'où le petit mot en introduction de cette interview. Et maintenant, on continue les discussions avec les parties prenantes sur nos centres de la côte Est, à savoir Nakheti et Kwawa, pour pouvoir reprendre une activité le plus rapidement possible. Mais il est bien évident que quand vous vous retrouvez du jour au lendemain avec pas d'activité, puis 40% d'activité, peut-être maintenant 50% avec le site de Poya, ça reste très compliqué en termes de capacité financière et surtout de gestion de trésorerie.
Carl Tarby, je vous remercie.
Merci à vous.